Voilà, je vous invite à remettre cette parole pour que l'Esprit nous illumine. Seigneur, on te remercie parce que ce que nous voulons, Seigneur, c'est offrir un culte agréable et le moyen de connaître ce qui t'est agréable, c'est aussi en plongeant les regards dans ta parole, en nous laissant questionner par elle. Seigneur, ce que je te demande, Seigneur, c'est que là où ta parole est ouverte, que tu accompagnes ceux qui annoncent la proclamation de ce qui t'est agréable. Seigneur, merci, donne-nous que cette parole soit du miel dans notre cœur, qu'elle nous conduise à te connaître d'autant mieux. Amen. Alors j'aime bien, de temps en temps, prendre des textes qui sont peu connus. En fait, spontanément, en fait, on entend régulièrement les mêmes textes qui reviennent dans le top 50 des prédications. Mais il y a plein de textes que l'on connaît peu, que l'on connaît moins, certains que des fois on n'a même pas en pensée. Et j'aimerais donc prendre un texte que l'on a dans le livre des Juges au chapitre 17 et 18. Alors la période des Juges, c'est la période qui suit l'installation du peuple d'Israël dans la terre promise. Donc Josué a fait rentrer le peuple dans la terre promise. Et puis, une fois que Josué meurt, il n'y a plus une autorité reconnue à la tête de cet État nouvellement créé. Il n'y a pas de roi, et ceci conduit le pays petit à petit à sombrer dans l'anarchie, dans la déchéance. Et l'auteur du livre des Juges prend un plaisir quand même à nous raconter cette histoire, et à nous raconter quelques événements savoureux, un peu spéciaux, qu'il y a dans cette période, et il ne tait pas ce côté obscur, et son but est de venir nous interroger. Il vient nous interroger, entre autres, avec cette formule « Chacun faisait ce qui lui semblait bon », qui est une ritournelle qui vient à plusieurs moments tout au long du livre des Juges. Et le texte que nous allons prendre vient nous offrir une mise en garde sur la déchéance qui peut nous avenir, nous atteindre par la superstition ou le légalisme, lorsque dans notre vie spirituelle, il n'y a plus ce roi, ce leader, que doit être Jésus. Je vous invite donc à prendre le livre des Juges au chapitre 17, donc le texte du livre des Juges est coupé en deux, donc avec le chapitre 17 et 18, je ne lirai que le chapitre 17, je vous laisserai prendre le courant de semaine le chapitre 18 chez vous. Donc chapitre 17, « Il y avait un homme de la montagne d'Éphraïm nommé Mica. Il dit à sa mère, « Les 1100 cycles d'argent qu'on t'a pris, et pour lesquels tu as fait des imprécations même à mes oreilles, voici, cet argent est entre mes mains, c'est moi qui l'avais pris. » Et sa mère dit, « Béni soit mon fils par l'Éternel. » Il rendit à sa mère les 1100 cycles d'argent. Et sa mère dit, « Je consacre de ma main cet argent à l'Éternel, afin d'en faire pour mon fils une image taillée et une image en métal fondu. Et c'est ainsi que je te le rendrai. » Il rendit à sa mère l'argent. Sa mère prit 200 cycles d'argent. Elle donna l'argent au fondeur, qui en fit une image taillée et une image en métal fondu. On la plaça dans la maison de Mica. Ce Mica avait une maison de Dieu, il fit un éphod et des théraphimes, et il consacra l'un de ses fils qui lui servit de prêtre. En ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Il y avait un jeune homme de Bethléem de Juda, de la famille de Juda. Il était lévite, et il séjournait là. Cet homme partit de la ville de Bethléem de Juda pour chercher une demeure qui lui convienne. En poursuivant son chemin, il arriva dans la montagne d'Éphraïm jusqu'à la maison de Mica. Mica lui dit, « D'où viens-tu ? » Il lui répondit, « Je suis lévite, de Bethléem, de Juda, et je voyage pour chercher une demeure qui me convienne. » Mica lui dit, « Reste avec moi, tu me serviras de père et de prêtre, et je te donnerai 10 cycles d'argent par année, les vêtements dont tu auras besoin et ton entretien, et le lévite entra. » Il se décida ainsi à rester avec cet homme qui regarda le jeune homme comme l'un de ses fils. Mica consacra le Lévite, et ce jeune homme lui servit de prêtre et demeura dans sa maison. Et Mica dit, « Maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien, puisque j'ai ce Lévite pour prêtre. » Je vais juste terminer par la fin du chapitre 18. 18 verset 27, « Ils enlevèrent ainsi ce qu'avait fait Mica, et amenèrent le prêtre qui était à son service. » Et je vais arrêter ici la lecture. Donc en fait, juste pour donner le ton, donc à la fin, que tout va être bousculé dans la vie de Mica. Alors c'est une histoire un petit peu compliquée que l'on trouve dans ce livre des Juges. Alors je vais dire, le livre des Juges est truffé d'histoires compliquées, et ça, c'en est une parmi tant d'autres. Elle nous rapporte les péripéties d'un fils qui vole sa mère, puis qui, par crainte de recevoir la malédiction, va chercher à redonner l'argent à sa mère. Une mère qui est superstitieuse et qui pense qu'elle va pouvoir couvrir son fils en fabriquant une idole. Et puis, pour couronner le tout, un lévite, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est le petit-fils de Moïse, qui accepte de servir par intérêt dans une famille idolâtre. Et ce texte donc, nous laisse entendre que ça vient tout de suite après avoir reçu la révélation, puisque nous avons affaire au petit-fils de Moïse, donc on est deux générations après Moïse, on est une génération après Josué. Il y a même encore des anciens dans le peuple d'Israël qui sont encore compétents spirituellement pour à peu près conduire le peuple. Et puis au milieu, il y a tout cet ensemble de personnes, un magma au milieu du peuple qui vit dans l'idolâtrie en faisant ce qui lui plaît. Je crois que la première analyse qu'on peut faire, c'est que très rapidement, on peut se rendre compte que la transmission de la foi est quelque chose de fragile. Il n'a pas fallu plus d'une génération pour que le peuple se détourne de l'Éternel. Et je crois que la première mise en garde, c'est celle de nous tenir personnellement, individuellement, quotidiennement devant Dieu, pour savoir ce que Dieu veut pour nous, alors que plutôt que de rechercher à faire ce qui nous plaît et ce qui nous est agréable. Alors, j'aimerais tout d'abord creuser un petit peu le caractère des différentes personnes, des différents principaux personnages que l'on a dans ce texte. Il y a tout d'abord la mère de Mika. Alors, c'est une femme qui a beaucoup de richesses, puisqu'elle possède à l'intérieur de sa maison 1100 sicles d'argent. On verra un petit peu plus loin, enfin, on voit un petit peu plus loin que le Lévite est payé 10 sicles d'argent par année. À raison de 1 200 € par mois, j'ai fait le calcul, on est à peu près, si on devait traduire, ça donne à peu près 1 600 000 € aujourd'hui. Donc ce n'est pas une petite somme, si on devait traduire à peu près avec des équivalences d'aujourd'hui. Et en plus, on ne fait pas une imprécation, on ne fait pas une malédiction parce qu'on a quelqu'un qui nous a piqué 1 € ou parce qu'une caissière a oublié de nous donner les 10 centimes au retour de caisse. Donc c'est qu'il y a réellement une somme vraiment importante qui est mise en jeu. Alors son problème, je crois, ce n'est pas la richesse. D'ailleurs, je maintiens, donc la richesse n'est pas un problème, même avec la foi. Le problème de la richesse, c'est plutôt en qui nous mettons notre espérance. Voilà, je maintiens que Dieu a confié certaines richesses à certains. Le but est de pouvoir bien la gérer. Et si on est responsable chrétien avec une grande fortune, le but n'est pas d'être crispé avec les richesses, mais d'être dans une recherche de justice sociale et que la richesse ne soit pas le leitmotiv de notre vie. Mais cette femme montre bien que, en lançant une imprécation, ce qui était plus important pour elle, c'était l'argent qu'elle avait plutôt que le fait de chercher le bien pour ceux qui étaient autour d'elle. En gros, cette femme cherche à maudire celui qui l'a volé, et elle cherche à rendre le mal pour le mal. C'est la première interrogation, le premier constat que nous renvoie ce texte. Et puis, ce qui est assez étonnant aussi, c'est ce côté un petit peu superstitieux de cette femme. Alors, en fait, et là, elle apprend en fait que la personne qu'elle a maudit, c'est son fils. Et je vais dire, comme une mère qui aime son enfant, tout d'un coup, en fait, elle va chercher à corriger le tir. Et la première chose qu'elle fait lorsque son fils vient lui dire « je viens prendre l'argent », eh bien, elle cherche à couvrir la malédiction en disant « eh bien, écoute, je te bénis ». Alors, je ne sais plus exactement la phrase, verset 3, donc... verset 2, voilà, béni soit mon fils par l'Éternel. Donc en fait, elle lance une malédiction, le fils lui rapporte l'argent, et puis en fait, elle s'imagine que, eh bien, il suffit simplement de lancer un petit peu comme des formules magiques pour que les choses fonctionnent. Ça va pas bien, on se met à maudire, ça va bien, tout d'un coup, on va vouloir bénir sans chercher à comprendre et à tirer des leçons et des conclusions sur ce qui s'est passé. Il y a un peu une forme de superstition où il suffirait de faire un petit peu comme le marabout, lancer une phrase pour que les choses arrivent. Et puis, ce qui est aussi surprenant dans ce texte, c'est que cette femme est idolâtre. Alors que deux générations auparavant, il y a eu des éclairs qui ont éclaté sur une montagne où le peuple a clairement compris qu'il fallait marcher droit, eh bien on se rend compte que cette femme qui connaît parfaitement la loi, elle l'a connue de ses parents ou de ses grands-parents, eh bien elle va vouloir fondre une idole pour son fils, et l'objectif c'est de pouvoir, en consacrant une partie de cet argent, apporter un peu comme une protection spirituelle sur son fils. Vous savez un petit peu ce que l'on peut faire, par exemple, dans certaines cultures, quand on offre un gris-gris. Si je mets le gris-gris à mon enfant, eh bien, il n'aura pas tel démon qui va venir sur lui. ou bien ce que l'on peut faire dans un certain, dans une certaine chrétienté populaire, en voulant mettre une croix, tu mettrais une croix avec le crucifix sur ton enfant, tu verras, il ne chopera pas de maladie, tout se passera bien, ou bien j'ai une croix huguenote parce que ça fait 500 ans que je suis chrétien, donc en gros, normalement, si je mets bien ma croix, que je fais ma confirmation, il ne devrait pas m'arriver beaucoup de malheur. Bref, on se rend compte qu'on est dans une période où il y a un véritable esprit légaliste, de véritables lacunes spirituelles, en cherchant à combler le malheur par des principes, par des rites. Et puis, on a ce personnage qui est un petit peu notre héros de l'histoire, Mika, héros malgré lui. Si l'on devait condenser sa vie, on pourrait dire que cet homme est à la recherche du bonheur. En fait, Mika est semblable à un chrétien, que je vais dire chrétien charnel, qui croit qu'il sera un bon chrétien s'il obtient ce qu'il va appeler la bénédiction. Vous savez, en fait, alors je crois en la bénédiction, je crois que Dieu nous bénit, je crois que Dieu veut nous faire du bien, mais je crois que ce qui est important, c'est de rechercher la présence de Dieu, et que notre bénédiction, c'est la présence de Dieu. Mais Mika, lui, il est dans un autre ordre. Pour lui, ce qui est important, c'est de voir, de toucher, d'être dans une bénédiction palpable, matérielle, ou quelque chose qui va être considéré comme quelque chose de spirituel. Et il pense que son bonheur passera par le fait soit d'avoir des possessions, soit d'avoir un culte qui soit chez lui. Et ce qui est paradoxal, c'est que sa recherche ne le satisfera jamais. Il commence déjà par rechercher un intérêt économique en cherchant de l'argent, et puis il se rend compte que eh ben, ça va lui bâtir une malheur dessus, donc il se débarrasse de cet argent. Et puis ensuite, il se dit, ben alors maintenant, on n'a qu'à accepter l'idole, parce qu'à partir du moment où j'accepterai l'idole, eh bien, tout va bien se passer. Et puis, il se rend compte que ben, ça ne va pas assez loin. Maintenant, il faut qu'il mette une table chez lui, où c'est qu'il va pouvoir avoir un lieu de culte. Et puis, ce n'est pas suffisant, il va vouloir consacrer un fils. Puis, il se rend compte que la bénédiction n'est toujours pas comme il la souhaite. Et donc, il trouve un lévite, et il se dit, ça y est, maintenant, j'ai un lévite, tout devrait réussir. Et puis au final, eh bien, tout va s'effondrer. Alors ce texte débutait aussi en nous disant que Mika avait volé sa mère, mais on a l'impression que ce qui dérange l'auteur du livre des juges, ce n'est pas tant le vol en lui-même. En fait, l'auteur du livre des juges n'appuie pas trop sur la question du vol, mais on a l'impression que ce qui dérange plus l'auteur du livre des juges, c'est l'attitude dans laquelle Mika va vouloir rendre cet argent. En fait, il rend cet argent non pas parce qu'il est convaincu de péché, mais parce qu'il a peur à cause de la malédiction qui risque de lui arriver sur le bout du nez. Vous savez, c'est un petit peu comme certains chrétiens qui vont faire quelque chose qui est mauvais, ou quand, par exemple, vous savez, je me souviens d'une personne comme ça qui me téléphone à 9h le soir, donc elle s'était énervée contre moi en cours de journée, et puis, donc j'étais encore à Besançon, et puis il téléphone à 9h le soir, puis il me dit « Je vais te demander pardon ». Parce que dans l'écriture, c'est marqué que si on s'est énervé, il ne faut pas que le soleil se couche sur notre colère, de peur que le diable n'arrive. Alors quand le texte dit ça, je crois qu'en fait, ça ne veut pas dire que c'est dangereux si le soleil se couche et tout ça. Ça veut dire, si tu t'es mis en colère, réfléchis bien à ce qui s'est passé, tire-en des conclusions, et puis arrange-toi avec ton frère et essaye de le faire le plus promptement possible. En fait, ce n'est pas parce que le soleil va se coucher que ça va faire quelque chose ou ne pas faire quelque chose. Sinon, il faut se demander pardon un petit peu plus vite en hiver et un petit peu plus tardivement en été. Voilà, donc ce que ça veut dire, c'est arrange-toi et puis mets ta vie en ordre et fais-le promptement avec un bon état d'esprit. Et c'est un petit peu ce qui manque donc à Mika. Mika ne cherche pas à être dans un état d'esprit où le pardon est là. Ce qu'il cherche, c'est simplement à ne pas s'attirer une malédiction. C'est en tout cas ce que la lecture de ce texte nous laisse entendre par... tu sais, le gars que tu avais maudit, en fait, c'est moi, et voilà, je suis un peu dérangé par la malédiction que tu as apportée, donc hop, je te rends ton truc, et on oublie tout ça. Et donc, il n'y a rien dans l'attitude de Mika qui révèle une véritable attitude de repentance. Et même, on se rend compte que sa mère, qui est sans doute un petit peu trop une mère poule, et qui essaye un petit peu trop de le couvrir, va même chercher à lui rendre l'argent d'une façon un peu détournée, en disant, bon, bah, écoute, peut-être que tu en avais besoin, on va essayer un peu de noyer cet incident. Et puis, si cette question de la non-repentance ne suffisait pas, il y a cette question de l'importance de l'idolâtrie. Alors, elle est valable avec Mika, elle est valable avec la mère de Mika, mais vraiment tout dans ces deux chapitres est toujours lié avec l'idolâtrie. Et lorsque sa mère vient lui dire, eh bien, maintenant, on va faire une idole, et puis les choses se passeront bien, eh bien, il ne cherche même pas à reprendre sa mère. Parce que, je veux dire, lui aussi, il est au courant que l'idolâtrie n'est pas une bonne chose. Bref, c'est un homme qui n'a pas réussi économiquement, et maintenant qu'il est devant un constat d'une défaite économique, eh bien, il va vouloir chercher à réussir sur le plan spirituel, mais non pas en cherchant la face de Dieu, mais en cherchant l'intermédiaire de cette idole. Alors, c'est ce qui se passe, vous savez, par exemple, je prends le cas du catholicisme, lorsque dans le catholicisme, on va dire, tu as essayé de prier Jésus, ça n'a pas marché, eh bien, essaye de prier Saint-Pierre, essaye de trouver l'intercession de la Vierge. Bref, c'est un homme qui essaye de trouver des moyens d'intercession, des moyens pour pouvoir se rendre Dieu propice. En fait, cette attitude de Micah, elle nous renvoie aussi au propre légalisme qu'il peut y avoir dans notre cœur. Lorsque dans notre cœur, nous nous fixons nos propres règles pour pouvoir définir ce qui va nous donner ou non la bénédiction. Et alors, c'est facile quand on commence à regarder ce qui se passe du côté catholique en se disant « oui, c'est cool, on ne prie pas la Vierge ». Mais quand dans notre état d'esprit intérieur, en fait, on se dit « mais si jamais je fais ça, je suis sûr que je vais réussir à obtenir quelque chose de la part de Dieu ». Et c'est ce que Micah est en train de faire. Ce qu'il cherche, ce n'est pas à rendre un culte qui est agréable à Dieu, mais ce qu'il cherche, c'est à faire un culte qui lui soit quelque chose qui lui convienne et quelque chose qui va lui correspondre à lui, sans forcément s'intéresser à ce qui plaît à Dieu. Ce qui est important, je crois, dans notre culte, c'est que notre culte soit réellement offert à Dieu, non pas de la façon dont nous voulons, mais d'offrir à Dieu un sacrifice qui soit agréable et en conformité avec sa parole. Et alors toujours dans le même ordre de perversion, on voit cet homme donc qui cherche à consacrer son fils comme prêtre, parce que ce qui l'intéresse, c'est de se servir lui-même, mais non pas de servir Dieu. En fait, ce qui l'intéresse, c'est de servir de la façon dont cela lui plaît, mais non pas de la façon dont cela plaît à Dieu. Vous savez, un petit peu comme si on cherchait à faire des choses qui nous plaisent, parce que ça doit nous correspondre, parce qu'on a envie d'avoir des choses qui nous plaisent comme nous, ça nous plaît dans l'Église, mais sans rechercher réellement à savoir si c'est quelque chose que Dieu veut, quelque chose qui plaît à Dieu. Vous savez, quand on cherche à être dans les courants à la mode, dans des trucs comme ça, sans se poser la question, plus que ça, si c'est du marketing ou si c'est réellement une activité spirituelle. Et donc, au final, c'est ce que je disais, donc les chapitres 18, verset 24, puis verset 27, on se rend compte que Micah perd tout, simplement parce qu'il s'est trompé de bonheur, parce qu'il s'est trompé d'espérance. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait cette définition du péché. Le péché, c'est se tromper de bonheur. Et la vie de Micah, en fait, n'était que péché. Et au final, tout lui glisse entre les doigts. Le problème pour Micah n'était pas qu'il avait besoin de plus ou moins de bénédictions. Son véritable besoin était de trouver une espérance, une richesse qui ne soit pas matérielle et qu'il puisse trouver sa richesse en Christ, en Dieu. Le système qu'il s'était forgé l'a totalement perdu. Et je crois même que c'était un peu, vous savez, comme un tourbillon qui l'avait entraîné et entraîné jusqu'à sa perte. Quand on continue ce texte, on a aussi cette fois-ci ce Lévite. Alors, comme pour les autres, il a toujours ce problème de l'idolâtrie. Hein, donc voilà, l'idolâtrie n'est pas un truc qui le dérange. Et même, il trouve un certain plaisir dans cette pratique. Mais je crois que ce qui surprend particulièrement pour cet homme, c'est l'intérêt avec lequel il souhaite exercer son ministère. Des versets 9 à 11, on voit qu'en fait c'est un homme qui cherche un endroit qui lui convient. C'est littéralement ce que cet homme est en train d'exprimer. Il cherche un endroit qui lui convient. Et je crois que cette formulation vient nous interroger. Ce n'est pas par hasard que l'auteur du livre des Juges fait ressortir ce point. Ce qui est gênant, ce n'est pas le fait de vouloir vivre de son ministère. On voit par exemple l'apôtre Paul dans l'épître aux Corinthiens qui dit qu'il est tout à fait juste que le ministre du culte puisse vivre de son ministère lorsque cela est possible. Mais ce qui est gênant dans ces chapitres, c'est la motivation avec laquelle il va vouloir exercer son ministère. Et puis ce qui est le plus gênant, donc au chapitre 18, versets 17 à 21, je vous lis le texte du coup, 18, versets 17 à 21, ça nous révèle plus particulièrement l'état d'esprit qu'il y a dans ce Lévite. Donc on a la tribu de Dan qui est en train de chercher à rentrer dans son territoire, qui n'a pas encore de sacrificateur, et puis qui réussit à croiser ce sacrificateur et qui se dit, bon bah cool, maintenant on va essayer de le détourner et puis de l'amener avec nous pour avoir un sacrificateur. Et puis, donc versets 17 à 21, donc les cinq hommes, qui sont des gens envoyés de la tribu de Dan, qui est allé pour explorer le pays, montèrent et entrèrent dans la maison. Ils prirent l'image taillée, l'éphod, les théraphimes, et l'image en métal fondu, donc qui appartient à Mika, pendant que le prêtre était à l'entrée de la porte avec les 600 hommes munis de leurs armes de guerre. Lorsqu'ils furent entrés dans la maison de Mika, et qu'ils eurent pris l'image, l'éphod et tout ça, le prêtre leur demande, mais qu'est-ce que vous faites ? Ils lui répondirent, tais-toi, mets ta main sur ta bouche et viens avec nous, tu nous serviras de père et de prêtre. Vaut-il mieux que tu serves de prêtre à la maison d'un seul homme ou que tu serves de prêtre à une tribu et une famille en Israël ? En gros, est-ce que tu cherches simplement à servir Dieu, être là où Dieu te veut ? Est-ce que tu veux être au service d'une personne ou est-ce que tu cherches à avoir le plus grand nombre autour de toi et être bien vu ? Le prêtre éprouva de la joie dans son cœur, et à la fin, c'est lui qui prend les fautes. Donc au début, c'était les gens de la tribu de Dan, et à la fin, c'est lui qui prend les fautes, les théraphimes, l'image taillée, et il se joint à la troupe. Voici. Donc, ce texte s'arrête ici. Donc, ce verset 20 particulièrement, hein, il éprouve de la joie dans son cœur, donc à l'idée, ben cool, en fait, on ne va pas rester dans une petite province perdue, et cette fois, on sera un leader spirituel reconnu à la tête d'une tribu d'Israël. Et comme je le disais, la nuance se fait sentir entre les versets 18 et 20. Verset 18, ce sont les responsables de la tribu de Dan qui cherchent à prendre les idoles. Et puis verset 20, le Lévite, on n'a plus besoin de le retenir, c'est lui qui prend tout et qui s'en va, alors qu'en plus, ses idoles ne lui appartiennent même pas. La source de la motivation de son ministère n'était pas de se tenir devant Dieu pour savoir ce que Dieu voulait pour lui, mais c'était la recherche de son propre intérêt. Et enfin, je termine donc par le texte que l'on n'a pas lu, hein, chapitre 18, mais vous le lirez dans la semaine, hein, je vous encourage à le lire. Donc, qui concerne les descendants de Dan, donc cette tribu de Dan. Alors, il y a quelques points positifs. Alors, c'est ça que j'aime beaucoup dans le livre des juges. Le livre des juges nous révèle l'histoire telle qu'elle est. Elle nous dit que tout n'est pas pourri, qu'il y a encore des choses qui sont bonnes. Alors, il y a des choses qui sont assez intéressantes dans cette tribu de Dan, c'est que tout d'abord, ils passent auprès d'un Lévite, et puis ils reconnaissent son accent. Ça veut dire qu'ils sont habitués, ils ont été habitués quand même à avoir des sacrificateurs autour d'eux, et il y a quand même une notion de culte et de respect de Dieu qui existe pour ces hommes, donc ils reconnaissent, lorsqu'ils passent près du Lévite, son accent, parce qu'ils avaient, chaque tribu avait un accent un petit peu particulier. Et puis, aussi ce désir de consulter Dieu pour savoir si le projet va réussir. En fait, la tribu de Dan n'est pas encore installée dans son territoire, et puis elle cherche à savoir la volonté de Dieu, est-ce qu'on doit monter sur ce territoire ou non ? Et lorsqu'elle rencontre ce sacrificateur, elle dit, écoute, est-ce que tu peux consulter Dieu pour nous, pour savoir si c'est bien la volonté de Dieu que nous avions sur ce territoire ? Mais pourtant, ils ont donc eux aussi des travers. Ce travers de l'appât du gain. Et c'est assez surprenant, tout au long de ce passage, de voir qu'à chaque fois qu'il y a de l'argent, il y a de l'idolâtrie qui est mêlée. Et en fait, quand on se rend compte, en fait, on analyse, et c'est vraiment le constat que Jésus est en train de faire lorsqu'il parle de Mammon. Mammon, c'est l'idole, la divinité de la richesse, et en fait, richesse et idolâtrie sont vraiment liées dans ce passage. En fait, on essaye de trouver des couvertures spirituelles en créant des idoles en argent, et à chaque fois, il y a vraiment une confrontation. Et je crois que ça vient nous interroger. Qui est-ce que l'on aime réellement ? Est-ce que l'on cherche un intérêt économique ? Est-ce que l'on cherche à avoir la prospérité ? Est-ce que l'on cherche à avoir ce que je disais tout à l'heure, la bénédiction avec des guillemets, hein ? Je crois en la véritable bénédiction de Dieu, hein, qui nous protège, qui nous garde lorsque on recherche sa présence. Mais je crois que si notre objectif, c'est simplement d'avoir une belle bagnole, une belle maison, une belle femme, et là on se trompe de bénédiction. Et cette idolâtrie, elle va avoir des conséquences. Et quand on commence à rentrer dans le chapitre 17, on a envie de dire, bon, c'est cool, il n'y a pas beaucoup il va pas y avoir de grandes conséquences. On a affaire à un mec qui est paumé au milieu de la forêt, à un Lévite qui est même éloigné et puis qui est en train de partir nulle part. On se dit, il ne va pas y avoir de grosses conséquences à tout ça. Eh bien si, ce petit péché qui à la base ne semblait rien du tout dans le cœur de Mika, eh bien va avoir des conséquences particulièrement grandes, puisqu'à la fin du chapitre 18, on se rend compte que, alors vous le voyez particulièrement au verset 30 et 31, que cette tribu de Dan va garder ses idoles jusqu'à la période de la déportation. Donc en fait, pendant des centaines d'années, il va y avoir un culte à Silo, avec une idolâtrie qui va avoir lieu là-bas. Et puis, cette famille de Lévites qui sera sur place, ce sera toujours les descendants de ce Lévite qui est le petit-fils de Moïse. Et on pensait que cette histoire allait se résorber toute seule, mais ça vient nous montrer simplement que lorsque l'on ne résorbe pas le péché, on pense que ça ne va pas avoir de conséquences, et en fait ça va avoir des conséquences pendant des centaines d'années. Alors j'aimerais maintenant nouer un petit peu la gerbe avec toute cette histoire, parce que bon, c'est intéressant de voir ça dans le contexte du livre. Mais alors qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui pour nous-mêmes ? Alors cette histoire, elle nous rappelle bien sûr cette période sombre de l'histoire d'Israël. Ce peuple avait connu les exigences de Dieu, et juste en quelques générations, il y a eu ce détournement spirituel. Et cela est arrivé à partir du moment où on s'est détourné des enseignements divins, et où on a voulu commencer à rechercher la bénédiction par nos propres moyens. Et lorsqu'on cherche à obtenir la bénédiction qui est celle des enfants de Dieu, mais qu'on le fait non plus en étant enfant de Dieu, mais en cherchant à le faire par ce que nous faisons nous-mêmes. Moi, je me souviens d'une personne qui m'est proche, qui pendant un temps était loin de l'église, et puis quand elle avait besoin de bénédiction, elle me téléphonait, elle disait oh, « Est-ce que tu peux prier pour telle chose ?» Alors bien sûr, je prie, et puis voilà, je pensais bien qu'il y avait une démarche à l'intérieur de cette personne de rechercher Dieu, mais elle voulait avoir les avantages de la bénédiction que l'on peut avoir en étant chrétien, sans payer le prix et l'amour que nous avons d'être enfants de Dieu. Et pourtant, cette histoire, donc, elle nous renvoie bien à nous-mêmes. Lorsque nous cherchons à profiter de la bénédiction divine, en mettant en place des trucs ou des systèmes dans notre vie qui vont remplacer les enseignements de Jésus. Lorsque l'on considère qu'il nous suffit de répondre à telle ou telle exigence que nous nous sommes fixés nous-mêmes comme étant une loi de Dieu, sans réellement chercher dans la parole ce que Dieu veut pour nous. Lorsque je cherche à me justifier par mes propres moyens, en me disant que j'ai réussi à faire telle chose que je pense faire pour Dieu, ou telle autre chose, et je me dis qu'à chaque fois, c'est une petite croix qui va me permettre de plus en plus d'obtenir la bénédiction. Ce qui fait qu'à la fin, je recherche ma propre justification, et non pas ma justification en Christ. Et si Mika, au début de notre lecture, nous semblait assez grossier et ridicule dans la façon dont nous pouvions le regarder, eh bien, lorsque l'on regarde bien, nous avons un Mika qui est caché par chacun de nous-mêmes, et puis qui a tendance, bien souvent, lorsqu'il y a quelque chose qui vient nous interroger le long de notre route, et qu'on se dit « Est-ce que je suis bien béni ?» Et puis qu'à un moment, on a ce doute qui vient se placer au-dedans de notre cœur, eh bien nous avons cette attitude aussi ridicule que celle de Mika. Lorsque nous pensons que la religion va pouvoir nous venir en aide, en pensant qu'il suffit d'être présent de plus en plus aux réunions, en pensant qu'il suffit simplement d'être assis sur une chaise pour obtenir les faveurs divines, je vous encourage, bien sûr, à être régulier aux réunions, mais ce qui est important, ce n'est pas la régularité, ce qui est important, c'est vraiment l'harmonie et le désir d'être en relation et en communion avec le Seigneur lorsque nous venons. Mais je crois aussi que cela se fait de façon bien souvent assez sournoise, et je pense même des fois que ça peut se faire du haut de la chair, lorsque le message est reçu de façon toute simple, sans prendre du recul. Par exemple, lorsqu'il y a des prédications, vous savez, par exemple, comment être béni en 10 points. Et on se dit, premier moyen de bénédiction, ah, je l'ai, j'ai une croix. Deuxième moyen de bénédiction, j'ai une petite croix. Ah, là, je sens que je vais être béni. Troisième moyen, j'ai pas la croix. Oh là là, là, il va à tout prix falloir que je fasse ce que me dit le pasteur, parce que je pense que c'est quelque chose d'important pour pouvoir obtenir ce que je souhaite obtenir dans la vie. Ou bien des slogans qui sont des slogans marketing, réussir votre vie en 40 jours. Alors, je crois que c'est bon d'édifier notre foi par des encouragements comme ça, hein. Mais par contre, si votre objectif est simplement de réussir votre vie, eh bien, vous la louperez. Par contre, si votre objectif, c'est de plaire à Dieu et de lui être agréable, eh bien, alors nourrissez-vous de ces paroles-là, et puis, voilà, prenez ce qui est bon et ce qui est filtré, hein. Il faut toujours filtrer ce qui est dit dans ses livres ou ce qui est dit derrière la chair. Mais voilà. Et lorsque ces points donc, deviennent des leitmotifs et que nous pensons qu'il suffit simplement de remplir ces exigences, un peu à la façon d'une recette de cuisine pour que tout aille bien, lorsque nous recevons un message sans prendre de recul et qu'on considère que si nous remplissons notre contrat, eh bien, nous aurons les faveurs divines, eh bien, c'est à partir de ce moment-là que nous nous trompons de bonheur. Mika pensait qu'il fallait simplement agir. Si je rends l'argent, je serai béni. Puis je constate que rien ne va, alors je vais essayer de remplir une deuxième petite case, je vais accepter une idole. ça ne suffit pas. Je vais remplir une troisième case. Je vais chercher un prêtre, puis un lévite. Et puis, on se laisse noyer dans ce tourbillon du légalisme, de la superstition, et on ne cesse de s'éloigner de Dieu. Et il en est de même lorsque dans notre vie, nous nous formons nos propres exigences. Si je fais ça, je suis sûr que je serai béni. Ou bien, ah Seigneur, je rêve d'avoir cette belle maison, eh bien Seigneur, je vais faire quelque chose d'un petit peu plus en espérant que tu puisses me la donner. Alors comme Mika, nous construisons, je crois, dans notre tête des tableaux avec des cases à remplir, et plus nous les remplissons, et plus nous sommes apaisés envers nous-mêmes, mais sommes-nous réellement apaisés envers Dieu ? Ainsi, nos propres exigences morales vont tout d'un coup devenir une idole intérieure qui devient plus importante que Dieu. Et lorsque nous nous sentons bien simplement parce que nous avons fait telle chose ou telle chose, eh bien nous nous trompons. Ce qui est important, ce n'est pas de se sentir bien intérieurement, c'est de se sentir bien dans sa relation avec Dieu. Et je crois donc que comme Mika, nous devrions bien plutôt crier à Dieu sur notre incapacité à répondre à nos propres problèmes, incapacité à répondre à nos propres exigences, et encore bien moins aux exigences divines. Bien sûr, Mika devait rendre l'argent qu'il avait volé, mais ce qui était important, c'était l'attitude de cœur, repentant, de chercher de nouveau à être en harmonie avec Dieu, de chercher de nouveau à être en harmonie avec ceux qui étaient autour de lui. La conversion véritable consiste dans le fait de lâcher prise, de lâcher un petit peu, vous savez, ce en quoi nous avons placé notre confiance, une confiance mal placée, une confiance malsaine, pour s'abandonner dans la grâce divine. Alors, est-ce que vous voulez réussir dans la vie ? Je crois en la bénédiction, mais je crois non pas en une bénédiction matérielle que l'on va rechercher, mais je crois que notre bénédiction est bénédiction matérielle, bénédiction physique, ne sera que ce qui va découler de notre intimité avec Dieu, lorsque nous cherchons à lui plaire, lorsque nous cherchons à lui être agréable. En fait, ce texte nous montre que lorsque nous sommes sur ce chemin de la croix, lorsque nous sommes comme le Christ, non pas en train de rechercher notre propre intérêt, mais en recherchant à nous abaisser nous-mêmes, eh bien c'est à partir de ce moment-là que Mammon va tout d'un coup avoir de moins en moins d'importance dans notre vie, et que de plus en plus, nous pourrons établir notre relation avec Dieu. Notre délivrance se trouve dans la recherche du Christ en croix, qui nous appelle à sa suite. Et c'est là que se trouve notre véritable délivrance. C'est lorsque nous pouvons dire, Seigneur, je ne peux pas répondre par mes propres forces à toutes tes exigences. Et c'est pourquoi je ne peux que te faire confiance, pour que tu puisses vivre en moi, et à partir de ce moment-là, que je puisse vivre selon ce qui te plaît. C'est là où le message de l'Évangile prend tout son sens, c'est là où nous sommes libérés de ce tourbillon infernal qui nous conduit de plus en plus bas. C'est en contemplant le visage d'amour que nous pouvons voir en Christ, qui nous dit « Viens et suis-moi, fais-moi confiance, sans même voir ce qu'il y a autour de toi. » Amen. Seigneur, c'est vrai que bien souvent, nous nous sentons rassurés parce que nous nous disons que nous avons fait telle ou telle chose, et on se dit « Ouais, c'est super, je suis un bon chrétien parce que j'ai fait ça », sans même nous poser la question de savoir si ça te plaît, si c'était ce que tu voulais pour nous. Et Seigneur, ce que nous désirons, c'est que dans notre pratique, vraiment être en relation avec toi, pour rechercher ce que tu veux pour nous. Seigneur, dans l'intimité, savoir ce que tu attends de nous. Seigneur, donne-nous ce cœur, qui est un cœur attentif à toi, afin que chacun ne fasse pas ce qui lui semble bon, mais que chacun soit mis sous ce grand roi qui est le Christ, et que chacun puisse obéir à ce que toi, tu veux pour lui. Seigneur, c'est notre prière. Nous prions pour cela dans le nom de Jésus. Amen.